RMC Running,
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast d'RMC dédié à tous les passionnés de la course à pied. Que tu t'entraînes comme un pro ou seulement pour le plaisir, tu vas trouver ici tout ce que tu cherches, des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et des bons plans d'ossard pour te lancer de nouveaux défis avec Yoann Durand, maître Yodu, l'athlète de l'équipe de France, le gourou d'RMC Running.
Le gourou.
Salut Yodu.
Salut à tous, salut Benoît, ça va?
Comment ça va coach alors?
Bah écoute, hein, quand je t'entends ça va très bien, hein.
Ouais,
bah, tu redonnes le sourire à la communauté du running.
Ouais, bah, c'est surtout quand tu recours que tu retrouves
c'est
le
ça.
Sourire, c'est ça
ah,
qui
bah,
nous fait
ouais,
plaisir.
Ça, bon. On est tellement accro à ce sport que quand on peut pas le pratiquer, ça
c'est
nous
vrai.
Manque. Hein.
Exactement, alors je l'ai dit dans la petite intro, on vous compte régulièrement, on vous présente des portraits de coureurs inspirants, ça va être le cas cette semaine. Une magnifique histoire, celle d'une survivante. Anaïs Kemener sera avec nous, championne de France du marathon en 2016, quelques mois seulement après avoir été guérie d'un cancer du sein. Anaïs, qui est un exemple de résilience et de force mentale, elle va nous raconter son incroyable histoire et vous donner des clés pour progresser et surtout pour ne jamais rien lâcher. Et puis Yoann, tu le sais, nous sommes dans l'épisode d'après. Le marathon Nice-Cannes vient d'avoir lieu. Alors d'ores et déjà, on félicite tous les membres de la communauté RMC Running qui ont participé. On avait fait gagner 50 dossards, souvenez-vous. Et la semaine prochaine, on fera un épisode spécial débrief avec ceux que l'on a accompagnés pendant 10 semaines.
Il va falloir qu'ils nous racontent ça.
Et oui, ceux que tu as préparés, mon petit Yodu, évidemment. On sera avec eux et pourront nous raconter tout ça. On a également un bon plan dossard cette semaine. Le marathon de Nevers, le 27 novembre. On vous rappelle que ce cadeau est toujours disponible. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Autre conseil, si vous aimez RMC Running, vous vous abonnez aux différentes plateformes de téléchargement, vous laissez une note pour l'ego de Yoann Durand, c'est très important. Vous mettez 5 étoiles s'il vous plaît.
Ah ouais, on veut du 5 hein.
Voilà, exactement. Et puis vous nous suivez sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Strava. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, voici le portrait d'une championne.
Anaïs Kemener est déjà un sacré bout de femme.
Quand j'ai commencé la course à pied, j'avais 7 ans et en club à l'âge de 9 ans.
L'une des meilleures marathoniennes françaises, enfin on va parler de tes temps, c'est assez impressionnant.
Chez les dames, c'est Anaïs Kemener avec un chrono de 58 minutes 57 secondes.
C'était un peu la découverte, c'était un gros point d'interrogation sur la course. Surtout que je suis pas très bonne en côte, donc j'appréhendais un peu.
Et là maintenant, on a créé notre propre club en fait avec mon compagnon, et donc c'est le club de la Meute, toujours à Tremblay.
Elle a été championne de France du marathon en 2016 à Tours, et en 2018, vice-championne de France du 100 km.
Donc je suis aide-soignante depuis 2013, toujours aux urgences. J'ai travaillé d'abord à Bichat et maintenant à Bondy, à Jean Verdier.
Donc j'ai eu un cancer du sein à l'âge de 24 ans, j'avais rien demandé à personne.
J'ai vu 3 médecins en fait. Au cours de l'année 2014 à 2015. Comme d'habitude, la première chose que j'ai demandé à mon chirurgien, c'est quand est-ce que j'allais pouvoir courir. Donc il m'a dit 10 jours, bah parfait, au bout de 10 jours, le 10e jour, je crois que je courais.
Merci à tous d'être aussi nombreux pour cette cause, c'est très important. Et surtout, n'hésitez pas à toutes et tous vous faire dépister contre le cancer du sein, parce que moi, ça m'est arrivé, j'avais 24 ans.
Eh oui, on vous l'a dit, une championne, une survivante avec nous, Anaïs Kemener, cette semaine. Salut Anaïs! Quel plaisir de t'accueillir. Sois la bienvenue dans RMC Running. En plus, tu cartonnes quasiment toutes les semaines. T'as juste remporté la course féminine de la Voie Royale. C'était un semi-marathon à Saint-Denis, à côté du Stade de France, il y a 15 jours, en 1h18. Hein. Donc, ça cartonne pour toi quoi, en ce moment.
Pour l'instant, ça se passe plutôt bien, oui, c'est sûr. Je vais pas me plaindre.
Yoann, est-ce que tu connaissais l'histoire d'Anaïs? Est-ce que c'est une personne dont tu as déjà entendu parler?
J'en avais entendu parler, ouais, sur les différentes plateformes internet. Sur les qu'on peut trouver des interviews, des choses comme ça, et j'avais lu un peu l'histoire, mais je ne la connais pas personnellement, et du coup c'est très bien qu'elle vienne aujourd'hui nous partager un peu tout ça.
Les présentations sont faites en tout cas. Vous vous rencontrez enfin. On pose toujours cette même question pour commencer, Anaïs, question assez simple mais qui est très révélatrice pour toi. Pourquoi tu cours, Anaïs?
Parce que ça me fait du bien déjà. Je pense que en fait au départ je me suis pas vraiment posé la question, c'est venu assez naturellement parce que dans ma famille on est beaucoup de coureurs et aujourd'hui j'avoue que je sais même pas vraiment pourquoi je cours. Je sais juste que je cours parce que ça me fait du bien et que ça me, enfin voilà, c'est à chaque fois peu importe les émotions, que j'aille bien, que j'aille pas bien, c'est ce qui me fait sortir de mes, enfin voilà, de ma zone de confort où, et j'en ai vraiment besoin en fait au quotidien. Je pense que à force ça devient une drogue.
Et d'ailleurs on en parlera, hein. Ce sera le thème de la séance, le volume d'entraînement, parce que t'as un volume assez impressionnant et t'as quasiment aucun jour de repos. C'est très dur pour toi de rester au repos sur une journée. Hein.
Ouais, c'est clair. Franchement, ouais.
Ouais, même un footing de récupération.
Sont tous addicts ces coureurs. Ah, c'est un truc de fou.
C'est fou. Bah allez, pour mieux connaître Anaïs, on attaque son CV de coureur.
RMC, le CV de coureur.
Bon, ça se fait pas trop, désolé, mais rappelle-nous ton âge, Anaïs.
J'ai 31 ans.
Et tu cours depuis que tu as 7 ans, alors, c'est ça ?
Ouais, je cours depuis que j'ai 7 ans et en club depuis l'âge de 9 ans.
Ok. Tu cours combien de fois par semaine ?
7, 8 fois.
Ça représente combien de kilomètres en moyenne, hors prépa spécifique, hein, sur une moyenne annuelle ?
Par semaine ?
Ouais.
Par semaine, on va dire que je suis à entre 90 et 120 km semaine.
Ok, ce qui est déjà un volume assez
C'est pas mal, hein.
Hors prépa, on va dire.
Alors, tu as un métier, on pourra en parler, tu es soignante également dans la vie. Tu t'entraînes quand ? À quel moment de la journée, alors ?
C'est ça. Bah, alors, moi, je travaille de nuit. Du coup, je travaille la nuit et je cours la journée.
Ok. Donc, et tu dors jamais ?
Je travaille de... je dors le matin.
Ouais, d'accord.
Donc, je travaille de 21h à 7h.
Ouais.
Et ensuite, je dors un peu le matin et je m'entraîne à partir de 15h jusqu'à 17h. Et après, le soir, je retourne au travail.
Et voilà, une vie bien remplie évidemment pour Anaïs.
C'est ça.
Est-ce que tu as des records perso ou des victoires dont tu es fière, Anaïs ?
Oui, bah le marathon de Paris déjà l'année dernière, j'étais quand même très contente.
Ouais, tu m'étonnes.
J'ai 2h37.
2h37, ouais. Oh. Ah, oui.
2h37 et j'ai fait une grosse partie de la course toute seule parce que je suis partie avec les élites. Et bon, clairement, j'avais pas le niveau. Hein.
C'était un choix ou c'était... comment ça s'est passé ? Ouais ? T'as voulu ?
C'était un choix. En fait, on m'a proposé le dossard élite parce que du coup, mes chronos rentraient dans les... chez les élites. Sauf que bon, bah moi, moins de 2h40, on va dire, et les premières femmes aux alentours des 2h20-2h22, bah il y a un fossé. Hein.
Ouais, c'est sûr.
Mais bon, c'est quand même un privilège de pouvoir partir en élite, surtout sur le marathon de Paris. Donc je me suis dit, bon, ben, si je le fais pas maintenant, peut-être que je le ferai jamais.
Et puis, d'un autre côté, quel kiff d'être toute seule, parce qu'au moins, les gens n'encouragent que toi quand tu passes.
Ah bah, j'avais des belles photos. Hein.
Ah oui, c'est ça. Au moins, les photos sont réussies. T'as pas la main d'un gars qui est devant toi ou ce genre de choses, quoi. Ça y est, ça, c'est...
Ça, c'est sûr.
Ouais, ça, c'est pas pour toi.
2h37...
Ah bah, c'est sublime. On aura le temps d'en parler, mais quelle performance et surtout, quelle marge de progression encore pour Anaïs. On le disait, donc, dernière course disputée, tu as remporté l'édition féminine de la Voie Royale, donc ce semi à Saint-Denis. La prochaine, c'est quoi, le prochain objectif ?
Alors, le prochain, c'est justement les championnat de France de marathon à Deauville dans 3 semaines.
Eh ouais, ça vient vite. Et voilà, avec tu nous donneras ton objectif tout à l'heure. Parlons d'entraînement rapidement. Ta séance d'entraînement préférée, c'est quoi, Anaïs ?
Ça va être... là, par exemple, on en a une dimanche là qui arrive et ça, c'est vraiment le top du top. Ça va être 10 km, 6 km, 3 km, 1 km allure marathon.
D'accord. Ouais. Et pour avoir une idée, allure marathon pour toi, c'est quoi ?
On tourne, on va dire, aux alentours de 3,45.
Ouf, ouais, 16 km/h, quoi. Crac. Allez.
Ah, c'est bim. Ça.
Prenez ça, voilà. Et la séance que tu détestes, c'est la séance de repos ?
Ouais, celle que je déteste, quoi. Déjà, j'aime pas faire du repos, c'est sûr. J'essaie toujours de négocier avec mon père qui m'entraîne.
Ouais.
Toujours un petit footing, mais par exemple, ce matin, j'en ai fait une bien pourri entre guillemets, c'est à dire que c'est vraiment tout ce que j'aime pas, donc j'avais 20 fois 400 mètres.
Ah ouais,
la petite VMA, VMA sur piste, c'est pas ton truc.
Ah ouais,
mais c'est souvent le cas hein, chez les marathoniens.
Les marathoniens aiment la sortie longue, mais pas la VMA. Ouais.
Eh ouais,
c'est ça.
Donc voilà, on vous le disait, Anaïs Kemener est en direct avec nous cette semaine dans RMC Running. Tu as parlé de Jean-Yves, on en reparlera un peu plus tard, évidemment, l'importance de ton papa entraîneur dans ta vie. Et on le disait, démarrons par le début de l'histoire, Anaïs, passionnée de course à pied depuis toute petite, tu es tombée dans une famille de coureurs. Alors, est-ce que quelque part, question toute simple pour démarrer, ça t'a créé une relation privilégiée avec ton père ? On va parler de la maladie dans un deuxième temps, évidemment, parce que ça renforce des liens familiaux. Mais déjà, est-ce qu'il y a eu une connexion incroyable avec ton père, avec cette passion commune autour de la course à pied ?
Ah bah oui, carrément, parce que forcément, déjà, je pense qu'en tant qu'enfant, ça a forcément créé du lien, parce que sans même le contexte athlétisme, je veux dire, moi j'ai commencé l'athlétisme avec l'école, donc c'était les crosses scolaires, tout ça. Mon père, il venait me voir, il était super fier. Moi, je savais qu'il courait énormément aussi à côté, mais je me rendais pas compte de ce que c'était à cet âge-là, on va dire. Donc j'allais le voir courir, j'étais hyper fière, j'étais hyper contente, et ça me donnait déjà beaucoup d'émotions, mais je savais pas vraiment ce que c'était, on va dire.
Ouais, tu dis que tu commences l'athlé à 9 ans. Comment ça se passe quand on commence l'athlé à 9 ans? Tu commences, c'était quoi les distances? C'était quoi les entraînements par exemple?
Il n'y avait pas d'entraînement, hein. C'était la course aux bonbons.
Ah ouais, d'accord, super.
C'était un peu comme ça au départ, hein. Mon père me disait, allez, tu fais 5 tours et puis je te donne 2 euros, tu iras t'acheter tes bonbons à la boulangerie avec tes copines. Et moi, je disais, bon, bah parfait.
Okay.
Dès qu'il avait le dos tourné, je marchais. Dès qu'il n'avait pas le dos tourné, je courais. Mais enfin, ça marchait comme ça au départ.
Durant, lui, il courait à la chocolatine. Bon, c'est pas le même délire, mais bon, chacun son kiff.
Ah ouais, mais moi,
c'est ça.
On le disait à Anaïs, donc passionnée de course à pied depuis toute jeune. Tu mêles des études à côté de ça, puisque tu mènes des études d'aide-soignante, hein, pour en parler, mais donc c'est ton métier aujourd'hui. Tu réalises des progrès année après année, et puis j'en arrive peut-être à ce déclic à 21 ans, ce premier marathon de Rotterdam, hein, tu attends 21 ans pour te lancer sur le marathon, et déjà tu te dis, ça y est, j'ai trouvé mon truc, ma distance, l'effort que je préfère, quoi.
Le premier marathon, c'était vraiment un pari avec des copains. Du club, où on rigolait un petit peu entre nous et on se disait, bon bah voilà, on charriait, qui va finir en premier, comment ça va se passer.
C'est souvent ça.
Ouais.
C'est ça. Et bah 21 ans, en fait, moi j'ai pas spécialement cherché par rapport à mon âge, je me suis juste dit, bah voilà, j'ai toujours fait un peu de long.
Ouais.
J'ai envie, je m'en fiche de ce qu'on peut me dire. Et on verra ce que ça donne, hein. Les Kenyanes, elles courent bien, elles ont 17, 18, 19 ans. Je suis pas à ce niveau-là, mais je me disais, bon bah y a pas d'âge au final, on sait pas de quoi demain est fait. Mm-hmm. Si j'ai envie de le faire aujourd'hui, je le fais.
Tu te rappelles du chrono?
Ça s'est très très bien passé.
Ouais.
Oui, j'ai fait 3h11.
Ouais, déjà, donc pour une première expérience à 21 ans, c'était d'ores et déjà encourageant, quoi.
Surtout qu'en plus, c'était vraiment l'inconnu, on n'avait pas fait spécialement de prépa, je m'arrêtais à tous les ravitaillements.
Ah oui.
Je me suis arrosée plusieurs fois avec de l'eau sucrée parce que je pensais que c'était de l'eau, enfin, c'était...
Ah ouais, là, il est...
Est-ce que tu as eu dans ta tête l'idée de par un moyen ou par un autre d'en faire ton métier? Est-ce que tu t'es dit, quand même, j'aime tellement ça que mon rêve, c'est peut-être quand même de devenir coureuse professionnelle? Non,
jamais, ça m'est jamais passé par la tête. Après, bien sûr que des fois, je me dis, comme beaucoup de personnes, qu'est-ce que j'aimerais avoir plus de temps libre pour aller courir.
Bah oui, bien sûr. Ouais, mais c'est tellement compliqué déjà. Ouais.
C'est ça, mais j'en ferai jamais mon métier parce que déjà j'ai les pieds sur terre et je connais mon niveau par rapport au métier entre guillemets professionnel. En France, c'est compliqué aussi. Après, je pense que j'aime autant courir et j'aime autant cette passion. Je pense que c'est parce que justement, c'est ce qui me permet de me vider la tête à côté. En fait, c'est pas mon métier. Je sais que demain, si je rate un entraînement, je pourrais quand même manger à la fin du mois. Enfin,
ouais,
c'est pas, j'ai pas de souci de ce côté-là. Ça reste un plaisir.
T'as toujours gardé ce côté plaisir, ce côté passion qui est très important. Et c'est marrant d'ailleurs, Anaïs. Je te propose d'ailleurs, si t'en as l'envie, d'écouter l'épisode qu'on a fait avec Yann Schrub qui a remporté les 20 km de Paris et qui lui nous parlait de ça aussi parce qu'il était en 8e année de médecine, là il a fait une année fantastique, il est en train de se poser la question de devenir athlète professionnel à temps plein pour les Jeux de 2024, mais c'est pareil quoi, lui aussi jusqu'au bout il s'est dit il faut que j'assure mon parcours professionnel à côté. C'est important ça aussi Johan, l'équilibre de vie, on est tous des passionnés de course à pied, il faut trouver le juste milieu quoi, entre son travail, sa vie perso et sa passion pour la course quoi.
Ah bah ça c'est primordial hein, c'est parce que bon la course à pied est une passion mais il faut pas que ça en devienne une trop mauvaise addiction, c'est-à-dire que il faut pas que ça nous prenne tout notre temps, qu'on ne pense qu'à ça, qu'on soit vraiment focus, ça il faut laisser ça aux athlètes de haut niveau qui eux c'est comme elle l'a bien dit, elle loupe une séance, c'est pas grave, elle loupe une compétition, c'est pas grave. Nous quand on a fait le choix de devenir athlète de haut niveau, c'est différent parce qu'on a des attentes, on a des sponsors, on a des partenaires, on a des gens qui croient en nous et qui ont misé sur nous. Et on se doit en quelque sorte d'être performant et tous les jours d'aller à l'entraînement. Là, c'est simplement la passion qui la guide et c'est ce qu'il faut. Il faut que les gens, enfin les passionnés, restent là-dessus. C'est simplement le plaisir d'aller courir, de mettre ses baskets et de galoper. C'est juste ça. Il n'y a pas de prise de tête à avoir. Ça, comme elle le dit, ça changera pas sa vie si elle fait une bonne séance ou une mauvaise séance. Hein.
T'es comment dans ta tête en retour de Rotterdam, Anaïs? Tu te dis, je veux tout de suite retourner sur marathon. C'est ma priorité.
Je sais pas si je dirais que c'était ma priorité, mais je pense que à l'arrivée de la course, j'étais déjà sur internet en train de chercher une
ouais,
date, quoi.
Une autre course. Ça y est.
Alors, marathon de Paris.
Le virus du marathon.
Voilà, c'est ça.
Ah ouais.
Voilà, où est-ce que je vais aller là? D'ailleurs, on en a pas dit, mais t'es originaire de région parisienne?
Oui, j'ai toujours vécu en Île-de-France. J'ai toujours vécu dans le 93, on va dire, ouais.
Ok. Et puis après, on va attaquer donc cette cette histoire particulière donc que tu as vécue 2 années plus tard, donc à l'âge de 23 ans, de manière un peu anodine. Tu détectes une boule dans l'un de tes seins et immédiatement tu te rends compte que c'est douloureux. Donc tu te dis, je vais quand même aller faire une première consultation. Toi qui en plus est dans le milieu médical, quoi. Tu te dis, t'as le réflexe déjà de te dire, je vais consulter pour voir ce qui se passe, quoi.
C'est ça. Bah alors ça n'a jamais été douloureux, hein, par contre, mais j'ai bien senti que dans mon sein gauche, en fait, lors d'une douche, j'avais une boule. C'était pas très gros, c'était pas gênant, ça m'a jamais fait mal. Mais bon, je me suis quand même posé la question. Je me suis dit, bon, bah voilà, comme j'avais rendez-vous chez le gynécologue bientôt, je vais en profiter pour demander. Au final, quand j'ai vu ma gynécologue, elle m'a vraiment tout de suite rassurée en me disant que c'était rien du tout, qu'à mon âge, à 23 ans, sans antécédents connus, il y aurait rien de particulier, que c'était hormonal et que ça allait passer. Donc bon, bah moi je suis pas médecin, hein, donc je l'ai écouté.
Et à ce moment-là, t'en parles autour de toi ou tu le gardes un peu pour toi? Tu te dis, bon, je suis un peu rassurée, finalement, bon, c'est peut-être que je me suis inquiétée pour eux.
J'en ai toujours parlé autour de moi. En fait, j'ai pas vraiment de tabou. Je pense que le sport aide aussi pas mal pour ça. Mais c'est vrai que non, j'en ai tout de suite parlé à mes amis les plus proches en leur disant, toi c'est bizarre, j'ai quand même un truc dans le sein.
Ouais.
Je dis, bon, ça me fait pas mal, c'est pas gênant, donc bah, ça m'inquiétait pas vraiment. Mais oui, j'en ai beaucoup parlé.
Et alors, à quel moment tu apprends définitivement cette mauvaise nouvelle alors, le fait que tu effectivement sois touché par un cancer du sein?
Quasiment un an plus tard.
Ah ouais, c'est long. Parce alors, d'accord.
Ouais, c'est super long. Parce qu'en fait, du coup, j'ai vu ma gynécologue. Entre temps, j'ai vu 2 autres médecins. Et les 2 autres médecins, pareil, j'ai vu un bilan sanguin complet, j'ai fait une échographie mammaire et tout ça. Et en fait, avant de passer l'échographie, tout était parfait. La prise de sang, tout était vraiment nickel. Donc tous les médecins que j'ai pu voir auparavant me disaient la même chose. Bon bah, sans antécédents, à ton âge, avec ton hygiène de vie, etc., c'est rien. Donc il s'est passé quasiment un an et en fait, en août 2015, quand je fais l'échographie mammaire, du coup, bah là on me dit, oh là là, il faut faire une mammographie en urgence. Donc en fait, tout s'est accéléré vraiment assez rapidement.
Mais pendant un an, Anaïs, tu cours, tu continues ta pratique sportive et la douleur est constante, parfois elle part, elle revient. Comment tu ressens ça, toi?
Pendant un an, mais moi je me sentais très bien. Je faisais mes meilleurs 10 km, j'ai fait mes meilleurs. Enfin, à ce moment-là, je battais tous mes records. Donc vraiment, pas de fatigue, rien de particulier. Juste la boule dans mon sein qui continuait à grandir. Donc elle commençait à déformer mon sein et je le voyais. Mais à part ça, rien de particulier.
Ouais, d'accord. Donc, c'est ce qui a fait que tu t'inquiétais pas plus que ça, quoi. Donc, au départ.
C'est ça.
Ouais.
C'est ça.
Ouais, Johan, c'est une histoire déjà particulière. Hein. Tu ressens la chose un an avant, et puis tu t'inquiètes, l'inquiétude s'en va, et au final, t'as le coup qui arrive au moral, comme ça, en août 2015, quoi.
Ouais. Ah, c'est compliqué, ouais. Ça devait pas être simple à gérer, et c'est surtout au bout de un an, je pense, quand on lui a annoncé. L'information, la nouvelle, ça a dû être terrible.
Alors d'ailleurs, Anaïs,
tu t'y attendais pas du tout?
Non, non. Bah non, moi j'étais persuadée que c'était un kyste et qu'en une opération c'était réglé, quoi.
Parce que là, Geoffrey Charpie, notre producteur, me souffle que, en plus, le sort s'acharne parce qu'entre guillemets, tu as cette relation fusionnelle avec Jean-Yves, ton papa, et tu apprends la nouvelle la veille de son anniversaire.
C'est ça, ouais. C'est fou, le 7 août.
Le 7 août.
La veille. On m'annonce, et en plus mon père était pas là parce qu'il est officiel sur les compétitions, donc lui il était juge sur les championnats du monde master à Lyon.
D'accord.
Et du coup un peu coup dur parce qu'il attendait que ça que je l'appelle pour avoir des nouvelles, et au final quand je l'ai appelé, donc veille de son anniversaire, je lui dis bah écoute, oui c'est un cancer quoi. Donc là il était un peu dépité, il me dit mais attends je vais rentrer tout de suite, il faut que je rentre. Et moi, comme j'avais pas de traitement, j'avais rien avant 10 jours, je lui ai dit, mais non, termine tes championnats. De toute façon, moi, il va rien se passer avant une semaine, 10 jours. Donc, j'aurai besoin de toi dans 10 jours quand ça va commencer. Mais là, décompresse.
Alors, justement, comment ça se passe quand on apprend une telle nouvelle, Anaïs? C'est-à-dire qu'on te donne le diagnostic et immédiatement, on met en place je sais pas si on appelle ça comme ça, mais un plan de bataille, entre guillemets. Voilà, la façon dont les soins vont s'organiser, les séances de chimiothérapie. T'as déjà un calendrier de ce qui va t'attendre? Ouais, tu le sais déjà? Ouais.
J'avais pas vraiment un calendrier, mais je savais, oui, j'avais pas d'interrogation. Hein. C'est-à-dire que quand je suis sortie du rendez-vous du cabinet du radiologue, c'était assez rapide, c'est-à-dire qu'il m'a annoncé que c'était un cancer et il m'a dit « mais vous inquiétez pas, tout de suite je vous amène chez l'oncologue, il pourra répondre à toutes vos questions ».
D'accord.
Donc à ce moment-là, oui, il m'a dit tout de suite « c'est un cancer agressif, c'était un stade 3 sur 4, triple négatif, donc chez les jeunes ça va hyper vite ». Il me dit, il va falloir faire de la chimiothérapie, de la radiothérapie, l'ablation des seins, etc. Enfin bref, il me sort tout.
Ouais.
Donc là je me dis « ah ouais ». genre là c'est chaud, là ouais. C'est vraiment chaud quoi.
Parce que là tu prends Uppercut sur Uppercut, et dans la hiérarchie des choses, qu'est-ce qui est le plus dur à digérer? C'est les conséquences sur ta santé, les conséquences physiques aussi, parce que c'est vrai que tu perds tes cheveux, etc. La chimiothérapie c'est quelque chose de très très lourd, très important. Les conséquences sur ta vie à toi qui est aussi organisée en fonction de tes séances sportives. Qu'est-ce que tu as le plus de mal à digérer du coup dans toutes ces mauvaises nouvelles qui s'accumulent?
Le plus dur, déjà quand même, c'était l'annonce auprès de mes proches, hein, oui, mon père, bien sûr. Avec qui je suis très très proche. Ouais.
Voilà, d'ailleurs, vraiment, on t'a pas demandé, mais t'es fille unique, Anaïs?
Du côté de mon père, oui, je suis fille unique.
D'accord, ok. Donc, ouais. Ok. Donc lui, t'es vraiment son bébé, quoi.
C'est ça. Ouais. Mais non, le plus dur, mais franchement, c'était par rapport au sport. Hein. Peut-être que j'étais un peu dans le déni au départ.
Ouais.
C'est même sûr, parce que quand j'en parlais avec mes potes, on me disait, mais attends, Anaïs, t'as un cancer, t'as pas une grippe. Donc je leur disais, ah ouais, c'est vrai. Mais vraiment, le plus dur, c'était le sport. Parce que je leur disais, mais attendez, mais ouais. Quand l'oncologue, il me dit, il va falloir commencer les traitements à telle date, faire ça. Je lui dis, mais moi, dans 4 mois, j'ai les championnats de France.
Et voilà, c'est ça. Mais, ouais. Mais c'est marrant parce que c'est le réflexe sportif prend le dessus. Et toi, immédiatement, tu penses à l'objectif qui arrive et même à l'entraînement. Parce que l'une des premières choses que tu fais, c'est de reprendre la course à pied et tu continues à courir quoi qu'il arrive. Quoi. C'est ça qui est fou.
C'est ça. Mais mes médecins, ils m'ont détesté, hein, vraiment. Je pense que j'étais vraiment le mauvais élève à l'hôpital parce que tout ce qu'ils me disaient de pas faire, je le faisais et j'en faisais vraiment qu'à ma tête. Mais dès l'instant que ça me faisait du bien. Je m'en fichais en fait de ce que les médecins pouvaient me dire.
Alors, même si, et toi tu en es l'exemple parlant, l'exemple vivant, le moral dans ce genre de situation est prépondérant quoi. Il faut absolument garder le moral, se battre, et parce que le psychologique influe beaucoup sur ta maladie. Donc ils ont dit aussi se dire, si elle est passionnée comme ça, il faut pas l'interdire de courir, sinon ça peut lui miner le moral encore plus quoi, j'imagine.
Ouais, il a fallu se battre un peu quand même.
Ah, quand hein, même
parce
ouais.
Que
d'accord.
En fait au début les médecins me disaient oui, fais ton footing, c'est bien. Mais moi je leur disais mais attendez, moi je vais pas faire un footing. Je veux faire de la compétition. Je leur disais non, j'ai un 10 km là le week-end prochain, il est hors de question que je sois pas présente quoi. Donc ils me disaient mais non, mais moi je peux pas vous faire de certificat médical. Je leur disais si. Et du coup, mon père en plus qui m'entraîne, il venait avec moi au rendez-vous, il leur disait mais attendez, mais là si elle peut pas avoir un certificat médical, ça veut dire qu'elle a pas d'assurance, elle peut plus aller sur la piste, elle peut pas voir ses copains. Il dit vous voulez la laisser mourir dans son canapé en fait.
Oh là là, ouais.
Donc là, les médecins, ils étaient là, vu comme ça. Donc au final, on a quand même réussi à avoir un certificat médical, mais il me disait, par contre, tu fais très attention, parce que dans toutes les chimios, en fait, il y avait des cardiotoxiques,
ouais.
Et le risque à ce moment-là, c'était l'infarctus. Donc en fait, si j'allais loin dans l'effort...
Il fallait pas pousser le moteur trop loin, quoi, c'est ça?
C'est ça,
okay.
C'est ça, il fallait pas pousser trop le moteur. C'est-à-dire qu'un footing à 12 à l'heure, je pouvais taper à 180.
Ah d'accord, ouais d'accord. Donc t'avais une envolée cardiaque qui était impressionnante, alors que t'étais à une allure totalement raisonnable pour ton niveau, quoi.
C'est ça.
Donc, est-ce que tu peux nous faire une estimation du calendrier? Du coup, donc tu apprends la maladie, tu commences les séances de chimiothérapie. En gros, le traitement dure combien de temps, Anaïs?
Ça a duré 7-8 mois, on va dire, parce ouais. que j'ai fait de la chimiothérapie donc deux jours, toutes les 3 semaines.
D'accord. Donc 2 jours de chimio toutes les 3 semaines pendant 7 mois.
Voilà.
Ok. Et alors, dans quel état on sort d'une séance de chimiothérapie? Parce que ça, c'est vrai que tant qu'on n'y est pas passé, on peut pas le savoir. Tu ressors très fatigué? Tu ressors comment?
Alors à l'instant T, non. Ça fait pas effet tout de suite. C'est-à-dire que je fais ma chimio. En fait, c'était lundi, mardi, tout le temps.
Ouais.
Donc, je faisais ma première chimio le lundi, ça allait. Ensuite, on allait manger avec mon père. C'était un peu le rituel. On allait au lunch, on se faisait des trucs à volonté, tout ce qui me faisait envie.
Ah, tu gardes l'appétit quand même? Ouais, tu.
Les premiers jours, c'est d'accord. Ça. Tant que la chimio ne faisait pas encore effet, je mangeais.
Ok.
Par contre, dès le mardi et le mercredi, ça commence à aller moins bien. Donc là, à partir de là, je commence à avoir des aphtes dans la bouche, je mangeais plus, ça commence à être compliqué. Mais c'est pour ça, le lundi, j'en profitais pour tout faire.
Et l'impression de fatigue, tu fatigues vraiment? Tu ressens tout de suite que t'as subi quelque chose d'important?
En fait, ouais, mais je le ressens plutôt au bout de 3-4 jours, parce que c'est là où vraiment les traitements commencent à prendre effet sur le corps. Et du coup, je sens que je suis vraiment très essoufflée. J'ai plus de défense immunitaire parce que du coup, la chimio, ça tue les cellules cancéreuses, mais aussi les bonnes cellules.
Bien sûr. Mais oui, c'est le problème de la chimio. C'est pour ça que dans certains cas, elle n'est pas conseillée d'ailleurs pour certains patients.
C'est ça.
Les cancers sont différents, évidemment, les traitements aussi. Mais comment tu organises ton entraînement? Parce qu'on le dit depuis le début, toi, tu n'as quasiment jamais cessé. Tu as continué de courir, même si c'était sur des petites distances. Là, tu nous dis chimio, donc lundi et mardi, toutes les trois semaines. Comment tu t'organises? C'est-à-dire que tu te dis sur ces semaines-là, je fais des toutes petites séances et puis je reprends un peu mieux la semaine d'après. Comment tu faisais alors?
C'était exactement ça, ouais. En fait, la première semaine, je savais que j'allais être fatiguée avec les traitements. Et la deuxième et troisième semaine, ça commençait à aller mieux. Donc la deuxième semaine, je pouvais remettre des footings un petit peu plus longs. Et la troisième semaine, ça allait bien, donc je pouvais mettre des séances. Et après, hop, rebelote.
Quand tu dis des séances, donc tu refaisais du fractionné, du travail de qualité, etc.
Oui, mais c'était, on va dire, des 30-30 ou des choses comme ça. Mais c'était vraiment à mon rythme. Et généralement, je courais sur piste, comme ça mon père pouvait avoir un œil sur moi.
Et tu as raison de le dire, et c'est un aspect qu'on n'a pas encore abordé, mais l'importance du moral et l'importance de rester dans ce groupe d'entraînement qui va te soutenir du début à la fin. Et garder cette connexion avec tous tes potes, tous tes partenaires, parce que ça aussi, c'est primordial dans un passage aussi difficile.
Mais c'est sûr. Et je pense que vraiment, ce qui m'a sauvée, c'était de pouvoir garder du lien et de pouvoir continuer à rigoler et d'être avec mes potes, en fait. Et j'étais vraiment avec mon club. Et comme je le dis tout le temps, les fois où j'étais au stade, j'étais pas malade. J'étais comme tout le monde.
Il y a l'aspect physique aussi, Anaïs. Donc, malheureusement, la chimio, ça fait perdre les cheveux. Pour une fille, c'est encore plus délicat que pour un garçon, évidemment. Comment tu le vis personnellement? Comment c'est accepté autour de toi? Est-ce que tu sens des regards qui te jugent un petit peu? Pas forcément des gens qui te connaissent, mais des gens que tu croises dans la rue?
Au début un petit peu. Après, bon, vu que mon père, on a beaucoup rigolé avec mon père parce que bon, la première fois, c'est lui qui m'a rasé la tête. Et au final, lui, il est chauve, mais parce qu'il a une calvitie. Et du coup, quand on était tous les deux, il me disait, mais regarde-moi. Il me dit, je le vis bien. Ouais. Donc, il me dit, regarde, qui va te regarder? Il me dit, tu t'en fiches. Il me dit, t'as chaud, t'enlèves ton bonnet. Enfin, après, je suis tombée malade. C'était août. Mais du coup, il y a eu toute la période septembre, octobre, novembre.
Tu as mis le bonnet tout
l'hiver.
Le temps, quoi.
Voilà. Donc, j'étais en bonnet tout le temps et du coup, ça allait plutôt bien. Mais qu'est-ce qu'on transpire du crâne? Je me rendais pas compte de ça.
Eh oui, parce qu'avec les cheveux longs, tu te rends moins compte, évidemment, que quand t'as le crâne rasé à blanc, c'est sûr.
C'est clair.
Anaïs, durant cette période, tu continues ton travail d'aide-soignante ou tu es en arrêt maladie?
Non. Non, je travaille plus du tout. Arrête parce que comme j'ai plus de défense immunitaire, D'accord. Je peux pas travailler auprès des malades.
Ok. Johan, ça t'est arrivé, toi, dans ta carrière, d'être entouré de potes comme ça qui sont touchés, peut-être pas par une maladie aussi grave, parce que là, on parle de quelque chose de très sérieux, mais touchés par quelque chose comme ça qui les éloigne du terrain d'entraînement? Ça t'est arrivé, ça?
Non, pas des maladies à ce point-là. Après, on a tous eu plus ou moins des blessures plus ou moins graves, avec des fois des jambes cassées, des opérations qui nous éloignent des terrains pendant un an, mais c'est beaucoup plus, enfin c'est pas la même problématique, mais c'est vrai que le fait de rester, moi je le vois quand je me suis fait opérer du tendon d'Achille, j'ai quand même essayé de garder les copains.
T'as eu une longue indisponibilité aussi,
indisponible pendant 6 mois, mais voilà, il faut essayer de garder ça et le côté courage qu'on a de motivationnel qu'on a dans l'entraînement. Eh ben il faut le mettre dans sa guérison et mettre au lieu de mettre toute la force sur les 400 mètres d'habitude, là je le mets dans ma guérison, dans mon protocole de rééducation à devoir et ça aide vachement.
Tu restes sur cette période là toi aussi, Johan, proche de tes potes d'entraînement, proche de tes entraîneurs, proche la compète, de ce que font tes coéquipiers sur les différentes compétition.
Alors pendant une période, je voulais plus regarder. Ouais. Du coup, j'avais vraiment tout coupé. Je regardais pas les compétitions, je regardais pas les résultats parce que c'était beaucoup de frustration. Mais après, au final, tu t'en rends compte qu'une fois que t'as accepté cette blessure-là et que t'es sur le carreau pendant 4, 6 mois, 8 mois ou peu importe, et tu te dis c'est pas grave, je vais revenir, j'ai un mental de champion, je suis capable de trouver les ressources nécessaires pour revenir à plus haut niveau. Et du coup après tu te réintéresses, tu re-regardes les résultats et tu redeviens un petit peu athlète, quoi. Ouais. Et c'est ça aussi qui nous permet de se dire allez, dans 15 jours je cours, la première fois où je suis allé courir, j'ai couru 30 secondes,
c'était une libération.
Ça faisait 15 jours que j'attendais ce moment-là, où tu vas mettre tes baskets pour courir 30 secondes, t'as l'impression d'avoir marché sur la lune.
C'était propre, c'était à côté de la porte, tu t'es dit les chaussettes étaient déjà dedans,
je m'étais mis en tenue pour faire 30 secondes, mais ce jour-là tu te dis ça y est, c'est gagné, quoi.
Mais Anaïs, quand t'étais éloigné de la compète, est-ce que tu suivais tes potes qui, eux, y allaient sur des 10, sur des semis, sur des marathons? Est-ce que tu continues à les suivre?
Je les suivais, mais je courais aussi.
Ah oui, mais même ah ouais. durant les 7 mois de maladie, là. Alors.
Ah oui, durant les chimios, je faisais quand même des 10 km et tout. Hein. Je ouais. prenais mon dossard, après je les courais en 43, 44
oui,
minutes,
sûr,
mais c'est pas
sûr.
Grave.
Ouais, ouais. Au moins, t'allais au bout.
Je pouvais quand même participer.
Tu disais,
mon père, il me ramassait à l'arrivée, mais je disais, je m'en fous, je l'ai fait, quoi.
Voilà, c'est ça, exactement. Et puis, bonne réflexion, tiens, pour toi, Johan, de notre producteur Geoffrey Charpie. C'est vrai que si tu te rasais la mèche, mon vieux, tu pourrais passer sous les 2h08. C'est peut-être que tu perds un effet aérodynamique, c'est pas bête, hein. Toi qui as la mèche un peu longue.
Il est jaloux de mes cheveux,
ouais,
parce qu'il n'en a presque plus, non.
Ah bah, il n'aura jamais ta coupe de cheveux, je le confirme.
Ouais,
ça, bon, c'est sûr.
Ça, on les connaît, les mecs.
Donc, on a parlé des moments difficiles, Anaïs. Parlons des moments de joie, le moment où tu apprends que tu es sortie d'affaires. Ça se passe comment? C'est au bout de 8 mois ou est-ce que c'est un peu plus tard que ça alors?
Non, c'est beaucoup plus tard. En fait, la rémission complète, on va dire, c'est 5 ans après.
D'accord.
Donc c'est-à-dire, là, aujourd'hui, je suis en rémission depuis 2 ans.
Après le traitement des 8 mois, donc tout le traitement est terminé, mais tu restes en surveillance poussée?
Ah oui, parce qu'en fait, je fais mes 7-8 mois de chimiothérapie.
Ouais.
Ensuite... du coup, j'ai eu l'ablation du premier sein qui était malade.
D'accord.
Donc, j'ai eu tout plein d'opérations. Enfin, c'était tout un cursus. Ensuite, j'ai fait de la radiothérapie, donc des rayons bien localisés pendant 2 mois, tous les jours. Et ensuite, bah, c'est pareil.
Les conséquences esthétiques, évidemment, de l'ablation d'un sein, on imagine pour une jeune femme, mais les conséquences physiques des rayons localisés, c'est pareil, ça te provoque les mêmes choses, la fatigue, le... Ouais.
Non, physiquement c'était pas aussi important que la chimio parce que là pour le coup c'est vraiment localisé donc c'est sur la peau. Par contre ça peut créer des grosses brûlures au niveau de la peau, au niveau des cicatrices.
D'accord.
Et donc ça durcit la peau. Donc après en termes de comment dire par rapport au bras, enfin c'est un peu pour ça aussi que je suis passée sur le long les longues distances parce que j'arrivais plus beaucoup à me servir de mes bras au départ. C'était avec les opérations,
le frottement,
c'était un peu tendu.
Te faisait des douleurs difficiles à supporter, c'est, quoi, c'est ça?
C'est ça. Je pouvais pas aller vite, j'arrivais pas à me servir de mes bras assez rapidement. J'avais c'était plus très tonique. Donc il fallait plutôt que je fasse de l'endurance.
Alors, on parle de force mentale depuis tout à l'heure. J'aurai une question bien précise dans un instant, mais déjà, c'est vrai que pour une jeune femme, accepter un cancer du sein, c'est difficile. Donc, tu perds tes cheveux, tu subis une ablation de l'un de tes seins. Ça, moralement, c'est difficile aussi à supporter, j'imagine. C'est une épreuve en plus. Ou pas forcément, c'est le cheminement naturel et tu te dis tu l'as accepté dès le début, quoi, dès le diagnostic.
Je l'ai accepté dès le début parce que je pense que le fait de travailler à l'hôpital, ça a beaucoup aidé aussi.
Ah oui,
c'est-à-dire
oui,
que je travaille aux urgences, ça m'a permis de relativiser en me disant bah cancer du sein, ça soigne très bien,
ouais.
Je vois pas pourquoi je m'en sortirais pas, j'ai le mental, je suis entourée, tout va bien, je suis bien suivie. Donc je me disais, bon bah voilà, j'ai mes deux jambes, j'ai mes deux bras, mon cœur est solide, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien, quoi. C'est qu'un sein, c'est pas grave.
C'est des cas que tu avais déjà vu dans l'hôpital où tu travailles? Ouais.
Non, moi du coup c'était les urgences et je travaillais pas dans des services spécialisés.
Ah oui, c'est vrai.
Donc nous on voyait un petit peu de tout, mais par exemple c'était pas les détections de cancer.
Alors, question qui m'intéresse avec toi Anaïs Kemener, on le disait forcément, cette épreuve te renforce dans les moments compliqués, forcément, t'as une force mentale qui est peut-être supérieure à la moyenne, parce que on se dit que toi, dans une préparation ou dans les moments difficiles d'un marathon, bah, tu peux puiser des ressources que les autres n'ont pas, mais la question c'est, est-ce que c'est ça ou est-ce que à l'inverse, c'est le mental que tu t'es forgé depuis toujours, parce que tu pratiques la course à pied depuis que t'es toute petite, qui t'a aidé justement à surmonter la maladie? Comment tu vois ça? Est-ce que c'est l'un ou l'autre ou les deux finalement?
Moi, je pense que c'est le fait d'avoir toujours fait du sport.
Ouais. Donc, le sport t'a aidé à développer un mental dès toute petite, quoi. Ouais.
Ah oui, je pense. J'ai toujours eu ce mental, on va dire, de compétition, de combattante. Donc, pour moi, c'était, quoi qu'il arrive, même si ça va être difficile. En fait, même la maladie, je l'ai pris comme un marathon.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a plein de fois où c'était difficile, et là, je me disais, bon, allez, c'est pas grave. C'est le mur du 30e. Après, ça va passer, ce sera l'arrivée.
Voilà, c'est ça. Donc, au moins, t'as pris ça comme une course, tu savais ce que c'était. Et, alors, la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui encore, quand tu prépares un marathon ou quand t'es sur une course, n'importe quoi, on souffre aussi sur un 10 km, mais tu puises là-dedans pour aller chercher des ressources ou est-ce que non, pas forcément, ça reste de la passion, de la course à pied, et c'est pas non plus un surplus de motivation ou de renfort mental. Si, quand même.
Si quand même. Oh bah oui, carrément. Déjà, il y a plein d'entraînements où j'étais un peu en train de chouiner. Mon père, il me suivait en vélo, il me disait, t'as connu plus dur, hein.
Il
me dit, donc maintenant, tu vas pas te plaindre.
Il est là, Jean-Yves.
C'est ça. Il me dit, t'as connu plus dur. Il me dit, je vais pas t'entendre te plaindre pour 1000 mètres, hein. Donc, c'est des trucs comme ça. Ou ouais. alors, par exemple, aux 20 km de Paris, j'en ai vraiment chié.
Ouais.
je suis partie un peu vite et franchement, c'était difficile. Et en fait, comme c'était début octobre, j'avais le petit ruban rose sur moi. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai baissé la tête.
Et oui.
J'ai baissé la tête et j'ai vu mon petit ruban rose et je me suis dit, non mais là, je peux pas lâcher en fait. Donc j'ai dit, tant pis, il reste quoi, 5-6 km, mais on va continuer à se donner à fond parce que quoi qu'il arrive, j'ai passé par... Enfin voilà, je suis passée par des périodes beaucoup plus difficiles que ça.
Bon.
Là aujourd'hui, je suis là, même si c'est dur, bah j'ai connu plus dur. Donc on va au bout.
Ouais. Et puis on va parler de l'importance d'Octobre Rose, évidemment, qui est une période significative pour toi. C'est évidemment l'hommage national à cette magnifique cause, donc pour détecter les différents cancers du sein. Alors on le disait, donc 7 mois de traitement, ensuite un suivi poussé. Tu es en rémission depuis seulement 2 ans. Mais quand est-ce que tu reprends l'entraînement à bloc? Parce que tu nous as dit que pendant toute ta période de chimiothérapie, tu continues à faire des 10 km. Mais quand est-ce que tu commences à repousser l'entraînement, refaire du fractionné sérieusement et remettre de l'allure dans tout ça, Anaïs?
J'ai repris quand même relativement tôt. Après, je pense, voilà, le fait de ne jamais avoir arrêté, ça m'a permis de pas repartir à zéro.
Ouais.
Mais j'ai repris vraiment en 2016, en fait. Je me suis fait opérer en 2016, j'ai fait ma radiothérapie en 2016. Et pour donner le petit exemple, j'ai gagné le championnat de France de marathon.
Et oui, on en a parlé, bien
2016.
Sûr. Oui, parce que un mois après, tu arrives à gagner cette course. Mais d'ailleurs, cette course, elle est significative, quoi. Elle caractérise ton histoire, cette course. L'histoire de cette course, c'est complètement dingue. On va en parler dans un instant. Mais quand tu reprends l'entraînement complet, notamment pour ces championnats de France, est-ce que t'as mis l'objectif en tête? Est-ce que tu te dis là, je suis reparti et j'ai envie de faire 1000 trucs. J'ai envie de faire New York, j'ai envie de faire ci, ça, non?
C'est vrai qu'au début, je suis un petit peu partie en cacahuète. Je disais,
tous les week-ends.
C'est vrai. Mais après, bon, il a quand même su me remettre les pieds sur terre en me disant, bon, là, tranquille, hein, ça sert à rien de faire tout ça. Il m'a dit, c'est bon, t'es vivante maintenant, t'as plus rien à prouver.
Voilà.
Mais oui, c'est vrai que l'objectif, c'était vraiment les championnats de France de marathon en 2016 parce que j'avais pas pu les faire en 2015. Et je disais à tout le monde, non, mais même si je l'ai fait en 5 heures, je veux le faire. Et tout le monde me disait, mais non. T'es en chimio, là, tu te calmes, tu restes à la maison. Donc en 2016, c'était obligatoire. C'était ma revanche, quoi qu'il arrive, il fallait que je fasse les championnats de France.
Alors vas-y, raconte-moi cette histoire des championnats de France 2016, parce que on est un mois donc après toute cette histoire. Tu te dis, je veux les faire, j'y vais. Est-ce que t'as un objectif précis en tête ou est-ce que t'y vas tout simplement pour le chrono, pour te faire plaisir déjà au départ?
Ouais, en fait, j'avais l'objectif, c'était juste de... Enfin juste, c'était déjà énorme, c'était juste de battre mon record personnel.
Qui était de
2h58, je crois.
D'accord. Okay.
À ce moment-là.
Ouais.
Et ouais, 2h58 ou 2h57, je sais plus.
Ouais.
Et donc mon objectif, c'était de passer sous les 3 heures. Je me disais, mais voilà, là ma revanche, ce sera ça. La plus belle revanche que je puisse avoir, c'est de retrouver mon niveau d'avant. Après, mes dernières chimios, elles étaient en février.
Ouais.
Et du coup, j'avais plus aucun traitement. De février à septembre, j'ai plus eu aucun traitement.
D'accord. Et la course s'est déroulée en quel mois?
Et la course, c'était
comme ça.
C'était en septembre.
Ah, tu y étais, Yodu?
Non, mais je me rappelle, ouais.
D'accord.
Je me rappelle des France.
Parce que, tu te présentes, Anaïs, évidemment, tu arrives. Je sais pas si tu étudies d'ailleurs la concurrence et le niveau de tes concurrentes.
Oui, mais pour moi, j'étais pas du tout.
Ok. Ouais. Tu te lances, et là, ce qui est incroyable dans cette course, c'est que au fur et à mesure des kilomètres qui s'égrènent, tu vas gagner place après place, place après place, te dire que le podium est possible, te dire que la deuxième place est possible, tu vas apercevoir la moto qui entoure la première, tu vas te dire finalement c'est possible, et tu vas aller chercher cette victoire comme ça. Elle est magnifique, cette victoire, Anaïs.
C'est ça, mais à l'arrivée, mais je pense que j'étais un peu sonnée, hein. Je me suis dit, mais qui va me réveiller de ce rêve là, parce que
ouais,
c'est incroyable.
C'est pas vrai, c'est pas possible.
Non, c'est clair. Bah après, pour moi, c'était, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, voilà, les favorites de la course n'étaient pas présentes ce jour-là, et moi, je m'attendais absolument pas à aller chercher même un podium. Je me suis dit, bon, je participe au marathon de Tours, quoi, c'est ma revanche.
Ouais.
Et au final, les kilomètres se sont super bien passés, toute la course s'est très bien passée, toute la prépa aussi. C'était juste incroyable. Mon père, il m'a vu à un point, j'étais troisième, il m'a vu à un point, j'étais deuxième. Même lui, il devait se dire, mais qu'est-ce qui se passe là?
Mais pour lui, t'imagines l'histoire pour lui, c'est magnifique aussi. Bah ouais,
lui qui t'entraîne,
lui qui te suit évidemment au quotidien et qui te voit comme ça gagner place après place. Et d'ailleurs, info que me dit Geoffrey une nouvelle fois, tu rattrapes celle qui était première, donc Nathalie Tavernier, au 40e.
Exactement.
Donc c'est magnifique.
Ouais, exactement. Ah ouais.
Là, les deux derniers kilomètres, ça devait être complètement dingue, quoi. L'ambiance, et puis toi, dans ta tête, ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là, Anaïs, c'est fou.
Mais c'est ça. Là, je pense que, ouais, je me suis dit, si je meurs au bout, c'est pas grave. Hein. Mais j'ai tout.
Peut-être pas. Après tout ça.
au moins j'ai tout donné. Je me suis dit c'est les deux derniers kilomètres, mais peut-être que toute ma vie va en dépendre.
Bah,
je sais pas, à ce moment-là j'ai déconnecté quoi. Je me suis dit vraiment si je donne pas tout dans ces deux derniers kilomètres, bon, c'est fini quoi.
Et ben,
je regretterai toute ma vie.
Raconte-moi le moment où tu passes la ligne et où tu retrouves Jean-Yves, parce que là il doit y avoir des larmes d'émotion qui ne s'arrêtent plus quoi.
Ben même pas, j'étais choquée.
Ah même pas.
J'étais trop choquée, je passe la... Ouais, mais en fait, à 2 km de l'arrivée, je vois la moto. Et bon, bah voilà, comme je fais beaucoup de courses, je savais que la première femme est suivie d'une moto.
Ouais.
Donc je me suis dit, mais mince, enfin là, c'est.
Là, c'est du sérieux, quoi. Ouais.
Elle est là, elle est juste là, en fait. Et je me suis dit, bon, je la connaissais déjà parce qu'on faisait déjà pas mal de courses ensemble, on était à peu près dans les mêmes chronos.
Ouais.
Et je me suis dit, bon, bah voilà, on y va, quoi. Si je le tente pas là, je le tenterai jamais. Et c'est peut-être aujourd'hui, enfin. Il fallait le tenter, et je l'ai tenté, je l'ai réussi.
Mmh.
Et j'en étais super, super fière. Mais c'est vrai, quand j'ai passé la ligne, mon père, il était forcément à l'arrivée. Et je l'ai regardé, je lui ai montré ma médaille. Enfin, c'était incroyable.
Incroyable.
Je lui ai dit, mais qu'est-ce... Incroyable, mais vraiment.
Et lui, ému aux larmes ou une certaine retenue aussi?
Non, il était un peu dans la retenue, mais il avait quand même les... Si, il était ému quand même.
Ouais, j'imagine. Ouais. Évidemment. On l'a pas précisé, mais le chrono, c'est 2h55. Donc, double objectif réussi, puisque t'es championne de France et tu bats ton record perso à l'époque.
C'est
donc, bravo.
Oui.
Un grand week-end pour toi, ce marathon de Tours 2016. Évidemment, on a tenu à te faire une surprise. Donc, on s'est entretenu avec Jean-Yves, t'imagines bien,
oh.
En préparant ce petit podcast RMC Running. Et du coup, on l'a interrogé sur plusieurs sujets, notamment sa relation avec toi, sur sa fille Anaïs, tout simplement. Comment il la voit? Écoutez Jean-Yves Comenard.
Alors pour vous parler d'Anaïs, Anaïs est une fille qui a un caractère bien trempé. Si elle veut vous dire non, elle va vous dire non, cash. Elle va pas tourner autour du pot. Alors Anaïs et moi, on est très très proches. J'ai élevé Anaïs quand elle avait 10 ans. Et la maladie, en plus de ça, nous a rapprochés encore davantage, parce que là, c'était une épreuve de la vie, tout simplement. Mais ça nous a liés encore davantage. Je sais quand elle va bien, je sais quand elle ne va pas bien. Je le ressens direct. Alors, Anaïs, elle a des valeurs qui ont été transmises de génération en génération. C'est le sport, l'entraide, la solidarité. Non, Anaïs, je suis fier de toi. Et Anaïs, tout simplement, je t'aime.
C'est beau, ça.
Oui, c'est beau.
Non, mais j'imagine.
Et moi, si je t'aime, papa.
Et puis tu te reconnais totalement dans ce que vient de dire ton père, quoi. C'est vraiment votre histoire commune qui est racontée en une quarantaine de secondes, quoi.
Oui, c'est clair. Il me le dit tout le temps que j'ai un sale caractère. Hein.
Ouais. Ça doit chauffer à l'entraînement parfois, t'imagines?
Ah ouais.
Ouais, c'est sûr. Ça doit trembler, puisque vous entraînez à trembler en France.
Ouais, c'est ça.
On est là. Alors là, on a parlé du caractère de ta relation avec lui aussi. On n'oublie pas que c'est ton entraîneur. Donc il va nous parler aujourd'hui, enfin désormais, de Anaïs la sportive. Écoutez Jean-Yves.
C'est une athlète qui est vraiment faite pour le long. Due à sa foulée rasante et économique, elle est loin d'avoir exploité encore son potentiel.
Ah.
Pour exemple, après un marathon, le soir même, elle est capable de demander de faire un 10 km de récupération pour faire tourner les jambes. Avec Anaïs aussi, les séances deviennent de la négociation sur certaines séances courtes de fractionner. Tout ce qui est en dessous du 400 mètres, voire 1000 mètres, devient délicat avec elle. C'est là, faut discuter, faut parler. Au-delà, il faudrait presque l'arrêter. Mais avant, ça devient compliqué. Bon, après, quand on connaît, on adapte et on le sait. Mais oui, Anaïs est loin d'avoir exploité son potentiel.
Bah, le problème, c'est qu'à 9 ans, le bonbon, ça marche, mais à 31 ans, ça marche plus. Il faut trouver un autre truc pour te faire courir des 400.
Ouais.
C'est ça, le truc, Anaïs.
Non, c'est sûr. Ouais. C'est sûr.
Mais ce qui est intéressant avec toi, on le disait, donc, t'es plutôt une coureuse de long, mais tu brilles quand même t'as quand même un spectre, un panel impressionnant. Tu pratiques du 10 au 100 km. T'es même monté jusqu'à 100 km, toi, Anaïs.
Ouais, c'est vrai. Je sais pas pourquoi.
C'est des défis différents, en fait.
C'était un défi?
Ouais, c'est ça.
Non, c'était pas un défi. En fait, c'est quand j'ai fait mes opérations de reconstruction. On m'a enlevé le grand dorsal, en fait, des deux côtés, à droite et à gauche. Parce que, du coup, il fallait faire une reconstruction naturelle, on va dire. Donc, comme je tolérais pas les prothèses, on m'a mis le grand dorsal devant pour créer un petit galbe, en fait.
Parce que c'est situé où le grand dorsal, qu'on ait une idée?
Dans le dos.
D'accord, ok.
Et en fait, du coup, j'étais limitée dans mes mouvements avec justement ces opérations du dos. Et je pouvais pas faire de séances de vitesse, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc je me suis dit, en fait, mon père m'a mis dans la tête. On s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire? Du 100 km. Et puis moi, je lui ai dit tout de suite, allez, ok.
Non mais... Ouais. Et là, tu t'es lancé dans l'aventure du 100 km, quoi. Et en plus, pareil, t'avais un objectif fixé que t'as largement atteint et réalisé, hein, d'ailleurs.
Bah, oui, bah, cette année, du coup, j'ai fait, enfin, cette année, c'était l'année dernière, non, c'est en 2018 ou 2019, je fais 8h25, donc j'étais très contente parce que...
En compte.
J'étais très contente. Je fais 8h25.03. À savoir que le chrono international B est à 8h25.0.
Mais tu sais quoi? C'est ce que j'allais te dire. Et je crois que de tête, parce qu'on a reçu le Florian que tu connais bien, Florian Hoth, qui est donc championne du monde du 100 km, hein, quand même.
Ouais,
elle a décroché
clair.
Ce titre il y a moins de deux mois. Et je crois que le jour de son titre de championne de France, la deuxième fait à peu près un chrono comme toi. 8h20, quelque chose comme ça.
Oui, c'est possible, ouais.
Tu vois, donc c'est dire le niveau que tu avais sur cette course des 100 km, quoi. C'est impressionnant, Johan, quand même, au niveau d'Anaïs, de pouvoir briller du 10 au 100 km, quoi. Tu vois, c'est.
Bah, c'est une athlète complète et qui marche beaucoup au mental. Et du coup, c'est vrai que quand, comme son père l'a dit, c'est une athlète qui est faite certainement pour le long, mais qui dès que tu l'as fait travailler un peu sur du plus court, si elle accepte de le faire, elle a quand même des qualités pour ça également. Et ça, c'est des gens qui sont compliqués à entraîner parce que ils ont pas toujours un bon caractère.
Le pauvre Jean-Yves.
Mais c'est un régal à entraîner parce que tu sais que ils te surprennent toujours, tu vois. T'es jamais déçu et si t'arrives à leur faire comprendre les choses et à essayer de faire passer l'entraînement de façon ludique et tout ça, faire passer certaines séances, bah, ils peuvent claquer des chronos de ouf sur du plus court, hein, sur mais du 10 ou du semi.
C'est intéressant.
Ça va descendre. Hein.
Est-ce que l'athlète Yodu a peut-être des conseils à donner à Anaïs? Parce qu'Anaïs, on te voit partout, sur toutes les courses, un peu partout en Ile-de-France. T'étais à Saint-Denis, t'étais à Paris-Versailles, que t'as remporté d'ailleurs, t'étais aux 10 km de Paris. Tu fais énormément de courses finalement sur une saison, Anaïs. T'en fais combien à peu près? T'as une idée?
Non, je sais même pas. C'est vrai que je fais beaucoup de courses, mais en fait, je marche beaucoup au feeling. C'est-à-dire que je me dis, si j'ai envie
celle-là, j'ai envie de la faire.
Voilà, et je l'ai fait pas mal. Alors pas toutes, hein. C'est vrai que dès qu'on pose, enfin dès qu'on met un dossard, on peut pas. Je vais pas me mentir, hein. Je vais pas dire que je me donne pas.
Ouais.
Mais il y a beaucoup de courses où j'essaie de négocier justement avec mon père où je dis non mais regarde ça rentre dans la prépa de.
Ah oui, les objectifs intermédiaires.
Ouais,
d'accord.
Les objectifs un peu intermédiaires.
Parce que c'est ce que tu dis à Jean-Yves, on te croit pas une seconde, mais bon.
Elle le fait à fond. Ouais. Il lui dit tu fais à 80% et elle veut faire à fond.
Mais ça veut dire, Anaïs, sur une saison, t'as combien d'objectifs principaux? Un ou deux?
Oui, non, il y a vraiment des objectifs fixés. C'est-à-dire que, par exemple, cette année, on avait vraiment dit que ça sera plutôt sur le marathon. Mais là, par exemple, ça va être vraiment les championnats de France de marathon.
Ouais, dans 3 semaines.
Et après, ce sera, et après, ce sera le marathon de Paris.
Ok. Donc, marathon de Paris, t'auras le temps, ça sera en avril, quoi.
Novembre, avril.
Voilà.
Ouais. Ok. Donc,
ça me laisse du temps. Après, il y aura la saison de cross, hein.
Ah ouais, encore une amoureuse du cross.
Il faut placer les crosses au milieu.
Eh ouais, évidemment, elle est de partout, évidemment. Et puis tu vas pouvoir apporter des conseils à notre ami Yodu parce que tu as donc remporté la Paris-Versailles côté féminin cette année, je le disais. Tu remportes cette course en 58 minutes et 57 secondes. Paris-Versailles, c'est une partie du parcours du marathon 2024.
Par la Côte des Gardes.
T'es monté ce que Yodu va descendre, donc t'as peut-être des conseils à lui donner, quoi. C'est ça le truc.
Bah, bonne chance.
Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais parce que...
franchement, ouais. Je suis assez étonnée du parcours parce que vraiment, ça va être très difficile quand même. Hein.
Et ça, toi, ça te donne envie forcément, Anaïs, d'en être?
Bof.
Ah, pas forcément.
Enfin, oui, non, bof. En fait, oui, bien sûr, ça reste une course incroyable. Mais après, c'est vrai que le parcours, il est particulier quand même.
Ah, c'est dur.
Ah, c'est pas un parcours à chrono, ça, c'est sûr.
Ouais, mais...
Non. Mais par contre, oui, je pense que ça va être magnifique.
Et il l'a reconnu en voiture, je pense qu'il s'attend pas à... Quand il va mettre les baskets, l'ami Yodu, il va vraiment réaliser, je pense. Hey, Johan.
Ouais. M'en parle pas, j'en fais des cauchemars.
Tu vas en bouffer de la côte, mon vieux.
C'est sûr que ça va être incroyable.
Et puis, on le disait, donc tu travailles en milieu médical, tu travailles la nuit, donc forcément, c'est un métier et un rythme de vie particulier. Tu travailles à l'hôpital de Bondy, d'ailleurs, Anaïs, c'est bien ça?
Oui, c'est ça, ouais.
Et comment tu as vécu, toi, la période Covid? Toi qui sortais d'ailleurs d'une maladie lourde, évidemment. Est-ce que ça a été une période compliquée pour toi? Est-ce que tu as maintenu l'entraînement malgré les restrictions? Comment t'as vécu cette période?
Bah, je l'ai vécu comme tout le monde, c'est-à-dire que tout ce que je pouvais faire, c'est-à-dire qu'on a été limité à une heure par jour, bah, je faisais mon heure par jour. Je savais que de toute façon, à ce moment-là, il n'y avait pas de compétition, il n'y avait rien. Donc, au final, c'était une petite parenthèse... Dans la vie de chaque personne, je me dis voilà, moi j'étais pas athlète élite internationale, enfin je sais pas comment on appelle, c'était pas mon métier en gros et je me suis donné à 100% dans mon métier réel Et à ce moment-là, voilà, je voyais que ça. S'il y avait besoin de faire des gardes supplémentaires, je faisais des gardes supplémentaires. J'étais réellement dans, enfin, assez souvent dans d'autres services aussi, où on m'appelait des fois pour de la réanimation, pour des maladies infectieuses. Et vraiment, ça me plaisait. En fait, à ce moment-là, je faisais que ça.
Et on va arriver sur l'aspect partage d'expérience. Est-ce que à ce moment-là, quand tu as vu des personnes en difficulté, tu as parlé, raconté ton expérience personnelle pour tenter de les aider à se motiver, à lutter face à une certaine maladie ou une situation compliquée ?
Pas tant pendant la période Covid, parce que c'était vraiment différent.
Ouais.
Mais c'est vrai que lorsque je travaille par exemple en gynéco ou dans des services comme ça, aux urgences gynéco, bah ça peut m'arriver de croiser des femmes qui ont été opérées pour des cancers du sein ou des cancers de l'utérus, des choses comme ça, et c'est vrai qu'on en discute un peu. Je vais les voir et je vais leur dire elles sont inquiètes ou elles savent pas trop ce qui va se passer côté opération, et j'ai ce plus, on va dire,
ouais,
de pouvoir en discuter avec elles et de pouvoir les rassurer en leur disant bah regardez, moi aussi je suis passée par là, aujourd'hui je vais bien, alors on n'est pas toutes pareilles, on n'a pas toutes les mêmes cancers, mais je pense que c'est quand même un point rassurant.
À quel moment tu t'es dit, toi, il est important que je raconte mon expérience, que je m'associe à des mouvements, des associations pour faire parler de tout ça, immédiatement après la rémission, ou ça a mis un peu de temps pour toi ?
Non, j'en ai parlé tout de suite. C'est-à-dire que dès l'instant où j'ai appris que j'avais un cancer du sein, j'ai tout de suite commencé à faire des posts sur Instagram. J'avais pas la communauté que j'ai aujourd'hui.
Ouais.
Mais en fait, juste.
Et pourquoi alors, à ton avis ? Parce que c'était important de présenter ton exemple et d'alerter justement sur ce qui peut toucher n'importe quelle femme.
Bah alors déjà oui, je pense que voilà, c'était en tout premier lieu, c'était le côté médical où je me disais mais en fait moi j'ai jamais rencontré quelqu'un de mon âge qui avait eu un cancer du sein.
Bah oui.
Et je voulais faire un peu de prévention en disant bah regardez, ça arrive à tout le monde en fait. Je vis bien, j'ai un cancer du sein à 24 ans. Je fais du sport, je mange bien, enfin, je travaille, j'ai pas une hygiène de vie qui est dégueulasse ça arrive à tout le monde, ça n'arrive pas qu'aux autres, comme on dit. Et au final, j'ai commencé à en parler comme ça. Et après, je me suis rendu compte que ça m'a fait énormément de bien aussi, enfin, d'avoir énormément de messages bienveillants.
C'est ce que j'allais te dire. Il y a ça aussi, ça, j'imagine que moralement, recevoir des milliers de messages, ça doit renforcer aussi, ça doit faire du bien quand même dans ces moments-là.
Ouais, ça me faisait énormément de bien à ce moment-là aussi. Et le gros plus, c'est qu'en fait, quand je suis tombée malade, j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet,
ouais,
en cherchant des jeunes femmes de moins de 25 ans ou moins de 30 ans qui avaient eu un cancer, mm-hmm, et qui voulaient continuer le sport. Sauf que j'en ai jamais trouvé. Et en fait, je me suis dit, bon bah voilà.
Je vais être la pionnière.
Il est jamais trop tard, et je me suis dit que si un jour il y a quelqu'un qui chercherait quelque chose sur le cancer à tel âge, et ben peut-être qu'elle tomberait sur ma page, et à ce moment-là, elle se dirait qu'elle est pas toute seule.
Parce que tu es marraine de l'association Casiopea, qui est très impliquée dans cette opération de promotion des projets qui associent sport et santé. Tu as rejoint cette association en 2016, donc comme tu le disais, les dates correspondent, quoi. Tout de suite, tu t'es impliquée là-dedans, quoi.
C'est ça. En fait, j'ai fait la toute première marche avec elle. J'avais trouvé leur lien sur Facebook.
Ouais.
Et j'ai fait la toute première marche de l'association avec elle. Moi, j'étais en pleine chimio, enfin, j'étais en plein dans mes traitements, mais j'avais mon parcours de sportif d'avant.
Mmh.
Et du coup, j'avais besoin de rencontrer d'autres femmes qui étaient passées par là aussi et qui auraient sûrement des questions, enfin des réponses à me donner. Et ça m'a fait énormément de bien de pouvoir les rencontrer et d'avoir des réponses en fait à mes questions, des filles qui étaient passées par les traitements, par les opérations, par le sport, par la rémission. Et bah aujourd'hui, c'est un peu ça que je veux promouvoir aussi, c'est ouais, de pouvoir dire ben nous on est là, on fait beaucoup de sport et ensemble en fait nos forces sont décuplées.
Et tu t'es associé à l'appli Running Heroes, donc on a souvent parlé, on en a déjà parlé dans RMC Running, mais tu avais un objectif cette année qui était de faire courir au minimum 500 000 km en cumulé aux Français, donc sur cette appli. Bon, évidemment, toi toute seule, t'en as couru la moitié cette année. si tu arrivais à relever ce défi, Salomon, donc la marque qui t'accompagne, versait 5 000 oui, euros à l'association que tu représentes aussi, Casiopea. Bon, on enregistre avec un peu d'avance, mais le défi a été réalisé, c'est une fierté personnelle, j'imagine aussi.
Bah oui, franchement, j'étais super contente. Après 500 000 km, j'avoue que quand j'ai vu les kilomètres,
faut appeler des trailers sinon, hein, faut faire un truc.
Ah ouais, ouais, je me suis dit là ça va être chaud, surtout que c'était que sur 21 jours, c'était sur 3 semaines.
Ouais.
Mais au final, je suis super super contente parce qu'il y a eu plus de 10 000 challengers et les gens étaient hyper hyper attentifs, enfin ils étaient vraiment, tout le monde était, je recevais plein de messages tous les jours en me disant regarde, j'ai fait 5 km, j'ai fait 10 km et franchement, ça m'a tellement touchée. Je voyais que les gens étaient hyper hyper impliqués et c'était juste génial.
Durant aurait bien aimé t'aider, mais c'est la période où il était blessé. Donc malheureusement, il a pas pu
j'aurais pu apporter mes
4 km par semaine.
Ouais. Alors qu'en prépa marathon, t'aurais apporté plus de 120 bornes par semaine, quoi. Donc ça aurait pu rendre un service à Anaïs.
180.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça. J'allais dire, il manque 100 km.
Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, tu sais, il est un peu feignant, notre Durand. Hein. Attention, il privilégie la qualité à la quantité. Hein. Attention.
Exactement.
Eh ouais, c'est vrai.
Et j'en parlerai tout à l'heure. Excellent. La qualité plutôt que la qualité.
Alors, je veux quand même dire deux mots encore avec Anaïs. Tu nous parleras de ton club, la Meute Running, quand même, tout ce que vous faites, évidemment. Puis j'aimerais que tu me dises si on vient te voir au début des courses, est-ce qu'il y a des anonymes entre guillemets qui te reconnaissent comme ça au départ d'une course et qui te disent bravo pour ce que tu fais, ou ce genre de choses, parce que les messages sur les réseaux c'est bien, les vraies rencontres c'est peut-être mieux, et est-ce que c'est encore plus gratifiant, Anaïs?
Oui. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir. Je pense que c'est aussi des personnes qui sont touchées personnellement, ouais. Soit de près ou de loin, hein, que ce soit des proches, que ce soit eux dans leur vie personnelle ou voilà des amis, la famille. Et ça me touche énormément en fait. Mais c'est incroyable. Les gens qui viennent me voir à l'arrivée ou au départ en me disant bravo pour ce que tu fais. Et après ils me racontent un peu leur histoire personnelle aussi. Ça arrive. On échange beaucoup aussi sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Et ça a créé beaucoup de liens. Du coup c'est des gens que je connaissais pas spécialement avant ou qu'aujourd'hui je connais. Et je trouve ça juste génial et je la remercie énormément.
Parce que qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui est passionnée de running et qui comme toi serait touchée par une maladie, pas forcément la tienne, mais par il y a plein d'autres malheureusement maladies lourdes. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire?
Alors moi ce que j'aurais envie de dire c'est ce que je dis tout le temps hein, mais pour moi ça a été essentiel, c'est de maintenir le lien social. Donc de continuer à voir du monde, à sortir, à prendre l'air, à marcher, à faire ce qui est possible en fonction de nos capacités, mais vraiment c'est le plus important, c'est de garder du lien social, parce que je pense que plus on se renferme, moins on est bien, et c'est vraiment compliqué, c'est des maladies qui sont compliquées, et je parle que ce soit des maladies physiques ou des maladies mentales.
Oui,
hein,
bien sûr.
Peu importe, ou même des gens qui sont pas malades, juste le fait de sortir, de s'ouvrir au monde, de voir des gens, de voir des visages souriants, juste ça fait du bien.
Ça veut dire qu'on peut te contacter sur les réseaux, c'est-à-dire que tu prends le temps de répondre aux différents messages?
Je réponds à tout le monde.
Bon, elle est là. Ah, elle est pro. Hein.
Ah, ça, ouais. C'est beau.
Ouais, c'est beau. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton club, la Meute Running, hein, c'est un club que tu as fondé, on l'a entendu tout à l'heure dans la production sonore. Voilà, où vous en êtes, combien de licenciés, comment ça se passe, est-ce que l'ambiance est bonne? J'imagine que oui.
C'est une famille.
C'est la folie.
C'est une vraie meute.
Ah ouais. Ouais. C'est une vraie meute, ouais, mais c'est juste incroyable. On a un groupe WhatsApp où on se parle tous les jours. On essaie de se retrouver tout le temps, enfin, tous les mardis, les jeudis, les dimanches pour les entraînements communs.
Ouais.
C'est
vraiment. Vous entraînez où d'ailleurs? À Tremblay? À côté?
Non, bah, on s'entraîne à Mitry parce que l'ancien club où on était à Tremblay ne nous autorise pas à utiliser la piste.
D'accord. Okay. Ah. Il y a un conflit.
Mais bon.
C'est comme ça, c'est la vie. Okay.
C'est comme ça, ouais. C'est comme ça. Donc du coup, on remercie vraiment la ville de Mitry qui nous autorise à utiliser la piste.
Okay. Et sorties longues, c'est où alors, Anaïs?
Beaucoup au canal de l'Ourcq.
D'accord. Ok. Bon, ouais. Beau parcours, sympa. Donc,
de la ligne droite, tout plat, parfait.
Je vous ai vu vous entraîner, vous échauffer aux 10 km de Paris. C'est vraiment la meute. Là, je peux te dire, ils étaient
ils t'ont fait peur.
Ah, ça fait peur. Ah, je me suis planqué. Là, je me suis dit, les quais de Seine étaient larges, mais je me suis dit, c'est vraiment la meute qui débarque. Anaïs, pour terminer, avant de passer à la séance, quels sont tes rêves à venir alors au niveau de la course à pied?
Mes rêves, je dirais déjà toujours continuer à prendre du plaisir, parce que tant qu'il y a du plaisir, il y a de la performance. Et ensuite, si je peux continuer à baisser les chronos.
2h35, 2h34.
Le prochain, là, j'aimerais bien faire entre 2h36 et 2h38 à Deauville.
Ouais.
Et ensuite, quand je vais refaire Paris, moins de 35, hein, j'aimerais bien.
Ah, tu veux des conseils de Yodu pour aider Jean-Yves un petit peu aussi?
Je prends.
Ah, tu prends. C'est noté. Le rendez-vous est pris, monsieur Durand. Ok.
Le rendez-vous est pris.
Allez, ça marche. On passe tout de suite à la séance.
RMC. La séance.
Alors, évidemment, je suis allé sur le profil Strava d'Anaïs Kemener. Je voulais regarder un petit peu comment elle s'entraînait. J'ai pris peur, donc j'ai vite refermé. Je préférais retourner.
Le drame.
Ah ouais, là, c'est flippant. Je voyais que des points noirs sur tous les jours, donc pas un jour de repos. En moyenne, j'ai noté, 10 sorties hebdomadaires parce que parfois aussi tu te rends à vélo à ton travail. Hein, aussi, Anaïs, oui. On peut le décompter. En gros, en moyenne, j'ai noté ces dernières semaines 135 km, donc 135 km semaine pour une fille comme toi qui travaille de nuit, en plus c'est énorme.
C'est énorme.
Très peu de jours de repos. Et Yodu, c'est la question qu'on se pose tous, où sont mes limites en termes de kilométrage? Est-ce que je peux me permettre d'augmenter mon volume d'entraînement et surtout, est-ce que ça va m'aider à progresser? Est-ce qu'une nouvelle fois, Maître Durand, le mot-clé, c'est la progressivité? Pas passer de 50 à 90, 100 km en l'espace de 2 mois, quoi.
J'ai l'impression que ça y est, c'est rentré dans ta tête, ce mot progressivité.
Ça y est, ouais, c'est
à force de, ouais, de te calmer, ouais, et de t'en parler, t'as réussi à l'intégrer.
C'est la pédagogie Durand. La pédagogie. Ça marche.
Parce que bien sûr que la progressivité, c'est ce qui va faire, ce qui va vous permettre de progresser dans le sens où vous allez pouvoir augmenter un petit peu le volume, mais c'est surtout ça va éviter de vous blesser, ouais, parce que augmenter le volume c'est très bien, ça va vraiment nous permettre normalement de progresser parce que on peut augmenter d'une ou de deux séances par semaine. Après il faut savoir quoi augmenter parce que l'entraînement,
et
comme
oui,
je le dis souvent,
ça,
c'est une séance de VMA, un footing, une séance de seuil, du renforcement, des choses comme ça. Donc suivant le nombre de fois qu'on s'entraîne, eh ben on va pas augmenter de la même façon. Par exemple, quelqu'un qui s'entraîne déjà 3 fois, eh ben on va peut-être lui ajouter un footing. Quelqu'un qui s'entraîne déjà 10 fois, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui, est-ce qu'on va lui rajouter du volume, on va lui rajouter peut-être plutôt des intensités,
ouais,
ou alors la durée, augmenter la durée des sorties. En fait, ça va vraiment dépendre de la personne. Mais le maître mot, ouais, c'est clairement la progressivité, ouais.
Parce que augmenter le volume, si je comprends bien, c'est pas uniquement rajouter de l'endurance fondamentale. Ça dépend vraiment du profil du coureur, quoi.
Non, bah après, il faut garder un équilibre. Ouais. En fait, dans l'entraînement, il y a 75% de l'entraînement qui doivent être faits en endurance.
Peu
en
importe
gros,
le coureur. En facilité. Du meilleur,
peu importe
au,
le coureur.
À celui
du meilleur
qui débute.
Au dernier, ouais, normalement, 75% de ton entraînement, c'est okay, facile. Et t'as du coup bah 25% qui sont faits en intensité, et là c'est là où t'as 10% qui sont faits à la VMA, 10% à l'allure seuil, 10% allure tempo ou intermédiaire, enfin bref. Mais c'est important de quand même garder ces 75% de volume, ouais, en endurance. Donc ça veut dire bah il faut quand même si vous augmentez vos entraînements de 1 à 2 sorties par semaine, il faut quand même garder ce socle là de 75% de volume en facilité, en aisance,
voilà,
quoi.
En fait, fondamental, quoi. Une allure assez simple. Mais d'ailleurs, Anaïs, on dit que t'as un énorme volume, mais il y a beaucoup de footing en allure libre aussi, hein. Toi, tu pousses pas la machine systématiquement. Tu sais aussi faire des séances de récupération, hein.
Oui, oui, moi, je fais beaucoup de footing à allure libre. Après, c'est mon père qui me dit, voilà, soit il y a des footings, c'est défini endurance fondamentale, soit il y a des footings, c'est allure libre. Donc là, il me dit, parce qu'il sait très bien que j'aime pas faire que de l'EF.
D'accord.
Donc, des fois, il me dit, bon, voilà, tu fais un footing, tu te fais plaisir, mais bon, pas à 4 kilos non plus, quoi.
On peut avoir des exemples concrets, du coup, Anaïs. Endurance fondamentale, t'es à quoi? T'es au kilo? 5,15, 5,5?
Non, en vrai, de vrai, il faudrait, parce que je le fais pas, j'avoue, mais il faudrait que je tourne entre 5,30 et 6, quoi, que ce soit vraiment
un footing de
ouais, c'est ça.
Et sur un footing allure libre, t'es à combien environ?
4,30, 4,40.
D'accord, ok. Bon, ce qui reste des allures raisonnables quand on voit ce que t'arrives à réaliser sur 10 semi,
oui,
et marathon. Quels sont les intérêts, Maître Yodu, alors d'augmenter le volume pour un coureur?
Bah, c'est de progresser, hein. C'est simplement dans la logique de progression. Après, comme je le disais, je pense que il faut augmenter, si vous entraînez 3 fois, il faut augmenter d'un entraînement par semaine, d'un entraînement par semaine, mais sur une année presque. Je vais prendre mon exemple. En KD, en KD1, je m'entraînais 3 fois. En KD2, je m'entraînais 5 fois.
D'accord.
En junior 1, je m'entraînais 6 fois. En junior 2, je m'entraînais 7 fois. J'augmentais comme ça progressivement d'année en année pour pouvoir assimiler et,
ouais,
pour pas se blesser. Parce que au-delà de la blessure physique, il y a aussi l'aspect la fatigue mentale et l'usure, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si vous passez de 2 à 7 entraînements par semaine, ben au bout d'un mois, vous allez être rincé, vous allez vous dégoûter du sport, vous allez vous dire c'est de la merde, je progresse plus en plus, parce que vous allez vous brider.
Il y a la lassitude aussi, quoi.
Il y a la lassitude.
Bah ouais.
Il n'y a pas de logique de progression, donc forcément que derrière, il y a une usure mentale qui se joue aussi, ouais.
On rappelle que l'EF, c'est l'endurance fondamentale, hein. C'est vraiment l'allure où vous êtes tranquille et où vous pouvez discuter en faisant un footing, vous terminez, vous êtes quasiment fatigué, évidemment. Quand tu dis rallonger le kilométrage, c'est forcément rajouter une séance dans la semaine ou ça peut être aussi allonger les temps d'échauffement et de récupération?
Ouais, c'est ça, ouais, ça peut être allonger la durée, hein. Ouais. On peut s'entraîner 4 fois semaine et au lieu de faire 60 km dans la semaine, j'en fais 70 parce que...
Les conséquences physiques sont les mêmes? Ça revient au même? Ouais.
Vaudrait mieux... Moi, je pense qu'il vaut quand même mieux faire 4 entraînements et garder des vrais socles avec parce que s'échauffer 8 km pour moi ça sert à rien quand je vois des athlètes qui font des récup des fois post-effort de 4 km plutôt que 2 pour gagner des bornes en fin de semaine. Pour moi ça c'est des bornes perdues, ça, elles sont pas utiles, tu vois. Donc ouais. Peut-être faire 4 séances dans la semaine pour monter à 70, mais par contre se mettre une vraie séance de travail, ouais. Une vraie séance de renfo, une vraie séance de VMA ou une vraie séance de qualité. Moi je pense qu'il faut quand même privilégier la qualité plutôt que la quantité, c'est-à-dire que
okay.
C'est pour ça que enfin si les gens suivent ton Strava et voient comment je t'entraîne un peu.
Ah oui, c'est
t'as 4 séances par semaine mais il y a 4 entraînements dans la semaine, mais t'as une séance de VMA, une séance de fractionné, un footing cool et une sortie longue. Je préfère ça que 4 footings à 15 à l'heure, tout à la même allure.
Ouais.
Pour moi, là-dessus, il n'y a pas de logique de progression, même si il y a des contre-exemples avec Marjolaine Nicolas qu'on a
reçu,
qui elle s'entraîne de cette façon-là, et ça lui réussit. Mais
tu la connais, Marjolaine, Anaïs?
Je la connais pas personnellement, mais je sais qu'elle a fait le marathon de Paris en 2:35. Ah, j'avais entendu parler d'elle.
C'est flippant.
Et elle a fait un super chrono aux 10 km.
Ah oui, eh ben alors tu sais quoi, t'écouteras l'épisode qu'on a fait avec elle. Jamais de qualité dans ses entraînements, que du footing à 15 à l'heure.
Il n'y a pas de plan d'entraînement, il n'y a rien.
Pas
c'est
de plan.
Fait que du footing à 15. Ouais,
exactement.
Et elle progresse malgré tout comme ça, donc bon, comme quoi.
Incroyable. Elle a remporté 10 km de Rennes, en 33 minutes. Il y a quelques jours, c'était assez hallucinant. Et on la salue d'ailleurs, Marjolaine, qui nous écoute régulièrement. Qu'est-ce que vous pensez tous les deux de l'entraînement bicotidien? Tu vois, par exemple, j'ai une séance de fractionné le soir. Est-ce que je me fais un petit réveil musculaire le matin, Yodu? Qu'est-ce que t'en penses?
Tout dépend du temps, hein, tout dépend. Après, c'est pareil, ça va être l'équilibre à trouver entre l'entraînement et la récupération. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui travaille, ça va lui créer une fatigue qui va, il va vraiment avoir du mal à assimiler l'entraînement. Après, si
ça
c'est en vacances.
Ça peut être contre-productif, alors.
Ça peut être contre-productif, ouais. Complètement, ouais. Il faut, l'entraînement, le corps, il a besoin de temps pour s'habituer, en gros, à l'effort. Et on peut pas passer à se mettre à doubler comme ça si on récupère pas. Donc, il faut le faire de façon intelligente. Nous, athlètes pro, on a la chance, tu vois, de pouvoir faire la sieste, de pouvoir faire les étirements, de pouvoir se faire masser, de pouvoir aller chez le kiné, d'avoir tous les outils pour pouvoir récupérer au mieux. Mais ce qui n'est pas le cas chez un individu lambda. Et c'est vrai que quelqu'un qui va s'entraîner à 6h, il va avoir sa journée de taf et le soir, il va recourir à 18h.
Ouais.
Ça va durer 3 semaines. Et au bout de 3 semaines...
Fini.
Ça sent la blessure, ouais.
Ah ouais. Imagine quelqu'un qui travaille de nuit, n'est-ce pas, Anaïs?
Et donc, c'est des équilibres à trouver, hein. C'est des habitudes à avoir et à bien se connaître aussi, hein. C'est de l'expérience, à savoir quand on se sent fatigué, on réveille, il faut peut-être lever le pied le jour de l'entraînement, quoi.
Tu le fais, toi, Anaïs, ça? Parfois, tu sors de ta nuit de garde, tu te fais une petite séance comme ça de footing, après tu vas dormir et puis tu reprends l'entraînement l'après-midi?
Ouais, ça arrive. Ça arrive de temps en temps, mais après, c'est pareil, comme le disait Johan, je suis hyper à l'écoute de mon corps.
D'accord.
Et si je vais me sentir trop fatiguée, je vais annuler l'entraînement.
Ouais.
Parce que il y aura aucun bénéfice et je vais me dire, bon, en fait, je vais accumuler de la fatigue bêtement, je vais récupérer moins vite. Alors que, bon, c'est pas le but. Mais là, par exemple, ce matin, j'ai fait ma séance, ce soir, je vais aller faire un petit footing et après, je vais aller au travail. Mais parce que mon organisation me le permet. Cet après-midi, j'ai rien fait, je me suis reposée, j'ai mangé, enfin, tout est parfait, quoi.
Ouais, là, Geoffrey Charpy,
tu nous as parlé, t'es motivé.
Ouais.
Voilà.
T'es motivé. Geoffrey Charpy, regardez sur Strava, tu nous as fait du 20 x 400 ce matin. Sympa.
Oui, j'aime pas ça.
Quelle horreur, mais quelle horreur! Oh, mais comment on peut accepter ça?
Ah, j'aime vraiment pas ça.
Ah, bravo, hein, tu t'es motivé. Chapeau. Une vraie championne.
En fait, je devais la faire hier. Hein. Oh, mais hier, j'avais pas le mental.
Ah, hier, pas le mental. Cette nuit, message de Jean-Yves. Oh, le 20 x 400. Le marathon des championnats de France dans 3 semaines. Crac! Allez, on y va.
Ouais, voilà, c'est ça.
Bon, merci pour tous ces conseils. Et tout de suite, on passe au bon plan d'Ossard.
RMC. Le bon plan d'Ossard.
Alors, on a un top cadeau cette semaine encore, Anaïs. Nous, toutes les semaines, on fait gagner les dossards pour permettre à ceux qui nous écoutent de rester motivés. C'est le marathon de Nevers. Ce sera le 27 novembre. On était avec Antoine De Wilde la semaine dernière. On vous rappelle ce magnifique cadeau. On prend un peu le temps d'effectuer le tirage au sort parce que c'est vraiment sympa. C'est le week-end à passer là-bas avec la course de karting la veille. Tu te rappelles, hein, Yodu?
Oui.
C'est top.
Sur le...
Ouais. Sur le circuit de Manicourt, donc ancien circuit de Formule 1, vous faites la course de karting la veille et le lendemain, marathon, le 27 novembre. Vous partez du circuit en plus pour aller rejoindre le centre-ville de Nevers. L'hébergement est compris, tout est compris. Vous pouvez vraiment vous régaler. Donc si vous êtes intéressé, vous nous laissez un commentaire sur nos réseaux sociaux, Strava, Instagram ou encore Twitter. Et puis on vous souhaite bonne chance. Mais c'est plutôt cool, ça, franchement, comme cadeau. À part la météo, il n'y a rien qui peut vous arriver, les amis. C'est ça, il y a du.
Non, belle course, ouais.
Exactement. Et puis pour terminer, on a cette tradition, Anaïs, on t'a demandé la musique que tu écoutais quand tu courais. Comme de nombreux coureurs, tu n'écoutes pas de musique quand tu cours, tu t'écoutes. Voilà, tu préfères être concentré. Mais tu as quand même une musique que tu écoutes quand tu rentres de l'entraînement. Et tu nous as choisi, alors attention, prononciation, Bigger Ranks, qui s'appelle Homegrown, c'est ça ?
C'est ça.
Ah, on est là. Pas mal ça. On peut faire l'endurance fondamentale là-dessus quand même.
Ah, toi.
Qu'est-ce que t'en penses, Yodu ?
Ça passe.
Pas mal. Donc pour les étirements que tu détestes faire, Johan, devant la télé. Ben voilà, tu te mets ça.
Voilà. Non, c'est trop punchy pour les étirements. Ça me donne envie d'aller courir plutôt.
Alors attends, parce que j'ai Geoffrey Charpie qui me dit que Anaïs écoutait beaucoup Laurie et Billy Crawford plus jeunes. Là, on est passé à autre chose.
Mon père.
Ah, c'est beaucoup mieux.
Ah,
il a balancé le dossier, Jean-Yves. Ah, on le kiffe. Jean-Yves, on te kiffe.
Billy Crawford. Ah ouais.
Ça va.
Ouais, ça va. Ah, la
belle liste à Billy Crawford, elle est pas dure à trouver, il y en a qu'une.
Et oui,
il en a pas fait
écoute,
beaucoup.
On fait tous des erreurs de jeunesse, mon petit Johan. C'est comme ça. Et l'important, c'est de passer à autre chose. Heureusement que tu l'écoutes plus aujourd'hui. Bon, Anaïs, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir raconté ton incroyable histoire. Tu es un personnage passionnant, inspirant, et on te souhaite beaucoup de réussite pour la suite, notamment au championnat de France de marathon.
Surtout les France, ouais.
Voilà, évidemment les France, on espère que tu vas briller. Et tu es la bienvenue quand tu veux dans RMC Running. N'hésite pas vraiment, tu as ton siège, il est prêt pour
Super.
Toi.
Merci beaucoup.
Merci Anaïs, bonne soirée à toi. Merci coach Oyodu, c'était un plaisir encore cette semaine. Épisode débrief du marathon Nice-Cannes avec toute la team RMC Running, et on vous rappelle ce conseil toutes les semaines, surtout quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.